France Inter.
Il est 13h. Le 13-14, Jérôme Cadet.
Bonjour à tous et bienvenue au sommaire aujourd'hui. Ce sont deux très grands noms de l'histoire de l'automobile, l'un américain, l'autre français. Ford et Renault s'associent pour produire des véhicules électriques. En France, explication à suivre, la production d'électricité dans notre pays, on en parle d'ailleurs à partir de 13h30 avec Réseau Transport d'électricité qui a dévoilé ce matin ses prévisions pour 2035, 01 45 24 7000 pour vos questions. On peut parler notamment des prix de l'électricité. À suivre encore, le financement de la santé, des retraites, bref, le budget de la Sécu pour l'an prochain. Il est mis au vote ce soir à l'Assemblée. Bonjour Marie Mollet.
Bonjour.
Vous êtes sur place. On refait les comptes, Marie ?
Oui, qui va voter quoi, où, sur quel banc? Incertitude la plus totale à quelques heures du vote ici à l'Assemblée, où on se regarde et on se compte. Que vont faire les députés écologistes Horizon LR? Le résultat se fera quoi qu'il arrive sur un fil.
Et nous nous demanderons aussi à quoi joue l'ancien Premier ministre Édouard Philippe qui lui demande à ses troupes de s'abstenir. Nous verrons pourquoi des milliers de places de stationnement vont disparaître de nos villes et qu'une star du basket français a aidé à sauver un fabricant de meubles. Ça se passe en Vendée. 13h50, c'est la France. Ces communes qui se battent pour ouvrir ou pour maintenir leur marché. Ce sera avec Cyril Petit du journal Ouest France. Et puis juste avant 14h, c'est une chanson, la comédienne Louise Chevillotte demande feu Chatterton.
C'est une chanson qui est d'une grande pureté, d'une grande beauté. Comme si l'autre était une terre qui s'éloigne, qu'on ne reverra jamais. Je trouve que c'est un chant d'amour à ceux qu'on a aimés et qui ne sont plus là.
La chanson s'intitule Souvenir, ce sera avec Frédéric Pommier. Voilà, vous avez le programme. Merci de passer cette heure avec nous.
France Inter.
Pour la première fois cette année, l'Europe va acheter davantage de voitures à la Chine que l'inverse. Alors pour faire face à cette concurrence féroce, nos constructeurs nouent des alliances. Ainsi Renault qui se rapproche de l'américain Ford. Bonjour Agnès Soubiran.
Bonjour.
L'annonce a été faite ce matin. Des véhicules électriques Ford vont être fabriqués sur des sites Renault en France.
Oui, deux modèles de citadines électriques abordables. Ces deux voitures seront produites sur le site Electricity de Renault dans le Nord qui assemble déjà plusieurs modèles, dont la R5. Le design sera assuré par Ford et les véhicules seront co-développés par les deux ingénieries. Alors, y aura-t-il un problème de concurrence des modèles? Bernard Julien, économiste et spécialiste du secteur automobile.
Ils vont être conçus sur la base de la même plateforme, hein, donc il n'y a pas tellement de raisons qu'il y ait cannibalisation, puisqu'on appelle ça comme ça dans l'automobile, parce que les marques sont quand même très différentes l'une de l'autre, parce que les marchés sur lesquels Ford et Renault sont respectivement ne sont pas tout à fait les mêmes.
Et c'est au contraire un partenariat annoncé comme gagnant-gagnant. Ford est en perte de vitesse sur le marché européen, avec une part de marché divisée par deux en 6 ans. Et pour Renault, c'est l'occasion de faire tourner ses usines en plein régime. On devrait voir ces nouvelles petites voitures électriques commençaient à circuler début 2028.
Est-ce qu'il pourrait y avoir d'autres projets derrière celui-là?
Oui, car les deux groupes ont également signé ce qu'on appelle une lettre d'intention dans le domaine des véhicules utilitaires légers, histoire de conserver la longueur d'avance que les deux marques ont aujourd'hui sur ce marché par rapport à la concurrence asiatique. Des projets accueillis d'ailleurs favorablement par Guillaume Ribert, il est délégué CFE-CGC chez Renault.
C'est accueilli très favorablement par les salariés. C'est une bonne nouvelle, même si elle est surprise. Parce que, voilà, on a l'habitude de travailler avec des partenaires, mais c'est la première fois avec Ford. Ça, c'est un élément important pour nous également, le véhicule utilitaire léger. Donc, ces deux éléments-là, combinés, marquent vraiment une avancée positive pour le groupe.
Alors, proposer une offre attractive est un élément nécessaire pour lutter contre la concurrence, notamment chinoise, estiment les experts, mais qui doit s'accompagner aussi d'une protection du marché au niveau européen.
Merci Agnès Soubiran. Nous parlons de véhicules électriques. La stratégie de la France pour consommer plus d'électricité, décarboner aussi notre industrie. On va en reparler avec notre invité et avec vous à partir de 13h30. Mais puisque nous sommes en voiture, restons-y. Nos communes sont en train de préparer la suppression de plusieurs milliers de places de stationnement dans nos rues. Ces places qui sont positionnées tout près des passages piétons et qui posent donc des problèmes de sécurité. C'est une loi votée en 2019 qui oblige ces communes à les enlever, ces places, d'ici le 31 décembre 2026. Cela va représenter 3300 places en moins à Lyon, 1 millier à Bordeaux, à Laval, en Mayenne. La mairie est en train de les recenser. Reportage Gwendoline Langlois.
Miguel va tous les jours au travail à pied. Avant de traverser, il regarde à droite, et à gauche.
Je commence à 8h, mais je pars le matin à 7h et c'est vrai que les voitures ne voient pas tout.
À quelques mètres, devant un passage piéton, une grosse berline noire bloque la visibilité. Même avec son gilet fluo, David, balayeur, est très prudent.
Quand on traverse où ils sont, quand les grands ça va, mais quelqu'un plus petit, on ne voit pas. Plusieurs fois, même moi, avec la brouette, en traversant comme ça, j'ai failli, les gens ils font pas attention et me rentrer dedans avec la brouette ici.
C'est aussi arrivé à Dimitri qui se déplace surtout à pied.
Bon, je ne me suis pas fait renverser, mais j'ai juste une petite frayeur par rapport à la voiture. Il roule de pas de comment, il ne regarde pas ni à gauche ni à droite. Pour moi, ça commence à me saouler parce que les piétons ne sont pas trop respectés.
Pour éviter les accidents, dégager les passages piétons, Nicolas est pour.
S'il y a des places qui se libèrent, oui, en visibilité, ce sera mieux parce que des fois, on est presque à se pencher sur la voiture. Donc je pense que ça peut être du bien.
Il rejoint sa Clio rouge garée à quelques mètres d'une intersection.
Là, j'ai un stage tous les lundis matin. Donc j'arrive tôt, donc j'ai de la place. Mais si on retire des places, est-ce que j'en aurai toujours? Je ne sais pas.
Le conducteur repart. Dans le sens inverse, Sabine passe à vélo. Elle n'utilise plus la voiture par manque de place de stationnement.
Les gens vont encore moins venir dans le centre-ville. Les gens finalement vont sur les extérieurs parce qu'il est facile de se garer.
Mais la sexagénaire aimerait aussi plus d'attaches à vélo dans et en dehors du centre-ville.
Reportage ici Mayenne. Sur nos rails, il y a un nouvel acteur depuis 4 ans. La SNCF doit faire face en effet à la concurrence de Trenitalia sur l'axe Paris-Lyon-Marseille. Et les Italiens grignotent petit à petit des parts de marché, même si ça reste très limité, 1% seulement du marché français. Bonjour Luc Chemla.
Bonjour.
Et la compagnie italienne annonce aujourd'hui qu'elle va étendre son offre.
Oui, sur le très rentable et très fréquenté axe Paris-Lyon, à partir de ce dimanche, Trenitalia va proposer 14 allers-retours par jour entre les deux villes, contre 9 actuellement, et va représenter plus d'un tiers de l'offre sur cette ligne. L'opérateur en plein développement, et ça se ressent dans ses chiffres, 1 800 000 voyageurs cette année en France, c'est deux fois plus qu'en 2024. Il faut dire aussi que Trenitalia s'est lancé cet été sur Paris-Marseille et dessert désormais au total 11 destinations. Mais Fabrice Toledano de Trenitalia se défend de vouloir concurrencer à tout prix la SNCF.
Si notre objectif c'est simplement de prendre des clients à la SNCF, c'est qu'on n'a pas compris. Notre ambition c'est d'élargir le marché ferroviaire et de aussi faire profiter l'ensemble du marché du train de la croissance.
Et d'après plusieurs sites de comparateurs de prix, l'arrivée de Trenitalia a fait augmenter l'offre, mais aussi plus globalement baisser les tarifs de 30% sur le Paris-Marseille et 10% sur le Paris-Lyon. Mais l'italien n'est pas encore rentable et ne le sera pas non plus l'an prochain. Pas étonnant d'après Patricia Perenes, économiste des transports au cabinet Transmission.
L'idée, c'est qu'au début, les trains ne sont pas complets à réserver en entier parce que les gens ne connaissent pas l'existence du service. Voilà. C'est ce qui peut expliquer qu'ils perdent de l'argent. Vous pouvez regarder notamment un exemple intéressant, c'est une entreprise qui s'appelle NTV Italo en Italie, qui est entrée en concurrence contre Trenitalia et ils ont perdu de l'argent pendant 5-6 ans, je crois, de mémoire, avant d'en gagner.
Et l'économiste émet toutefois un doute sur le long terme. Comme Trenitalia n'a pour l'instant que des trains à un seul niveau, contrairement à la SNCF, cela limite le nombre de passagers et donc ses recettes.
Merci Luc Chemla pour ces explications. On en sait plus sur l'accident qui a coûté la vie à 3 jeunes la semaine dernière à Alès, dans le Gard. 3 jeunes dont on avait retrouvé la voiture dans une piscine, âgés de 14, 15 et 19 ans. Le procureur de la République d'Alès nous apprend deux choses. D'abord que c'est le plus âgé 19 ans, qui était au volant et qu'il était positif à l'alcool, au cannabis et aussi au protoxyde d'azote. Plusieurs bouteilles de protoxyde d'azote avaient été retrouvées dans ce véhicule. Avant de parler du budget de la sécurité sociale pour l'an prochain, le vote est donc prévu ce soir à l'Assemblée. Parlons du budget de l'audiovisuel public qui est en baisse constante ces dernières années. 110 millions d'euros en moins pour la seule période 2018-2022 chez France Télévisions. Et cela s'est poursuivi depuis. Conséquence, sa présidente Delphine Ernotte a annoncé un plan d'économie. 150 millions d'euros en moins pour l'an prochain. Et plusieurs tournages de séries sont d'ores et déjà suspendus. Bonjour Alexandra Hakoun.
Bonjour.
Dont la série policière à succès, Meurtre A, diffusée depuis 2013 sur France 3.
Oui, une collection qui pourtant, avec son implantation dans les régions, marche très bien. Entre 4 et 6 millions de téléspectateurs à chaque épisode. Seulement voilà, vous l'avez dit, France Télévisions va devoir faire d'énormes économies. On parle depuis cet été d'un coup de rabot de 60 millions d'euros dans son budget alloué à la création, c'est-à-dire fiction, animation et documentaire. Alors pour le moment, France Télévisions refuse de commenter la mise en pause d'un de ses programmes phares, mais plusieurs producteurs confirment en avoir été informés, ajoutant que des polars France Télévisions en a beaucoup sur ses grilles et suffisamment d'avance et de stock pour tourner sur des rediffusions si besoin. besoins, préférant pour le moment privilégier les mini-séries, format qui marche bien en linéaire et surtout très bien sur sa plateforme France.tv. Mais pour Pascal Rogard, tout cela n'augure rien de bon. Le directeur général de la SACD, la Société des auteurs et compositeurs dramatiques, estime même être à l'aube d'une crise de la fiction.
D'abord parce que le premier financeur de la fiction, c'est le service public de l'audiovisuel, France Télévisions. Deux, il y a des accords qui ont été signés avec Disney+, qui vont donner plus d'argent pour le financement du cinéma, mais c'est un système de vase communicant, moins pour la fiction. Il y a aussi envisagé par le CNC la modification d'un décret qui oblige les plateformes à investir dans la création. Et dans cette modification, on déporterait de l'argent qui va vers de la fiction vers l'animation.
Sans oublier les chaînes privées qui ont de plus en plus de mal à capter la publicité au profit d'acteurs comme YouTube et TikTok qui, eux, n'ont aucune obligation d'investissement dans la fiction ou toute autre forme de création.
Merci Alexandra Hakoun. Ce qui nous amène donc à la mise au vote ce soir à l'Assemblée du budget de la Sécurité sociale pour l'an prochain. Un budget en déficit de 19,6 milliards d'euros, selon les chiffres de la ministre de la Santé, et qui tient compte aussi de la suspension de la réforme des retraites de 2023. Voilà l'enjeu d'un vote totalement incertain. Marie Mollet et Maxence Lambrecq nous attendent à l'Assemblée nationale pour nous l'expliquer. Commençons avec vous, Marie, sur les comptes. À l'heure où l'on se parle, où en est-on du rapport de force ?
Eh bien d'abord, il y a ceux qui voteront contre, à coup sûr, RN, LFI et UDR, le groupe d'Éric Ciotti. Ceux qui voteront pour, massivement, les députés EPR derrière Gabriel Attal, le Modem, les socialistes, Liotte également. Et puis il y a tout le reste, là où l'incertitude reste totale. Les 38 élus écologistes qui ont pris une décision ce matin mais n'en disent rien et gardent le secret, hésitation entre l'abstention et le vote contre. Les LR qui vont voter en ordre dispersé et en se bouchant le nez en plein dilemme, douloureux de soutenir la suspension de la réforme des retraites, mais ajouter au chaos parlementaire serait pire, dit l'un d'entre eux. Alors ce matin, sur tous les bancs, on s'essaye à de savants calculs. Ça passe à 3 voix près, d'après le pointage d'un pilier du bloc central. Mais ça bouge tout le temps, c'est au feeling. Voilà pourquoi Sébastien Lecornu a tenté de grappiller les voix une à une. Les suppléants des ministres, obligés de voter pour, y compris chez LR, ils sont 4, c'est conséquent. Les 2 derniers réfractaires du groupe macroniste PR, leurs collègues tentaient de les convaincre encore ce matin. Ne pas oublier les 8 députés ultramarins qui ont été traités pendant l'examen du texte. Mais à la fin, un élu macroniste le concède, l'humeur des dernières heures aura aussi son importance.
À vos côtés, Marie, Maxence Lambrecq. Bonjour Maxence.
Bonjour.
On a parlé à l'instant des députés du parti d'Édouard Philippe, les députés Horizon. Je voudrais, Maxence, qu'on s'arrête avec vous sur la position de l'ancien Premier ministre. Il prône l'abstention sur un texte qui est porté par un gouvernement dans lequel il a des représentants. On a du mal à le comprendre. Pourquoi est-ce qu'il fait ça ?
Eh bien, pour se distinguer des autres et prouver qu'il ne transige pas avec ses idées. Suspendre la réforme des retraites, c'est une folie. Alors, on ne peut pas voter pour. Tant pis pour les conséquences. Gabriel Attal et Laurent Wauquiez font le pari inverse. Les Français veulent voir ce feuilleton budgétaire se terminer. Ils oublieront ce vote contraint d'aujourd'hui. L'électorat de centre-droit fera la part des choses en 2027 et préfère l'ordre maintenant. Édouard Philippe, lui, se dit que ce type de vote peut le poursuivre tout au long de sa campagne comme un sparadrap. Le président de son groupe, Paul Christophe, n'a pas de mot contre ce budget.
Est-ce qu'il porte des mesures structurelles pour réduire la dépense ? La réponse est non. Est-ce qu'il fait peser à nouveau sur la fiscalité des citoyens les recettes ? La réponse est oui. Et enfin, vous savez tous qu'il comporte une mesure que l'on conteste, celle de la suspension des retraites. Il ne s'agit bien évidemment pas de nous associer aux artisans du chaos, mais nous, dans une très large majorité, nous nous abstiendrons sur le vote sur le PLFSS tel qu'il nous sera proposé cet après-midi.
Un ministre, lui, voit dans ce positionnement une nouvelle manière d'affaiblir Emmanuel Macron pour entretenir le scénario de la démission. Est-ce que tout le groupe Horizon va suivre cette stratégie ? Non, il y aura quelques votes favorables, notamment les 3 suppléants des ministres Horizon. Et est-ce que cet épisode va laisser des traces ? À coup sûr, Sébastien Lecornu n'est pas prêt à soutenir demain son vieil ami et à l'Assemblée, le bloc central a vécu.
Merci Maxence Lambrecq et Marie Mollet pour cet éclairage à quelques heures donc de ce vote du budget de la Sécurité sociale à l'Assemblée nationale pour 2026. Et pendant ce temps-là, une campagne, celle des élections municipales, elle débute et elle est déjà marquée par une plus grande utilisation de l'intelligence artificielle et pas toujours pour le meilleur. Exemple à Souston dans les Landes où une vidéo modifiée par l'IA circule. Elle montre la photo de campagne de l'actuel maire de la commune en train de faire un doigt d'honneur, le tout les légendé avec des propos très grossiers. Frédéric Charpenel, candidate à sa réélection, a donc déposé plainte.
Ça heurte mes valeurs, ça heurte ce que je suis, mon engagement. Ouais, c'est violent. J'ai déjà porté plainte pour des propos diffamatoires, mais très peu en fait. Hein. Et quand c'est pas respectueux, je sais le dire. Mais là, c'est la première fois qu'on utilise mon image en fait. Cette personne avait déjà eu des propos, mais bon, je réagis pas, je vais pas réagir à tout. Mais là, utiliser l'image de quelqu'un, la déformer, créer une vidéo, c'est la ligne rouge pour moi et j'imagine tout le monde. Voilà, je peux pas laisser passer ça. Il y a aussi une banalisation, on le voit bien dans notre société, de ce genre de comportement. Mais on a le droit de ne pas les accepter et de dire que c'est inacceptable, que je ne vois pas la politique comme ça.
La maire de Souston au téléphone d'ici Gascogne. C'est la loi Marthe Richard, 1946, qui a ordonné leur fermeture. Les maisons closes, les lieux où se pratiquait en toute légalité la prostitution, ont disparu depuis près de 80 ans. Mais faut-il rouvrir ces maisons? C'est ce que souhaite le Rassemblement National, qui dit vouloir des lieux sécurisés avec des travailleuses, des travailleurs du sexe organisés, je cite, en coopérative. Le parti propose d'ailleurs une proposition de loi en ce sens. Bonjour Hugo Dewoir.
Bonjour.
Les associations et les représentants et représentantes des professionnels sont contre, mais pour des raisons différentes.
Oui, un premier son de cloche tout d'abord, celui des associations qui luttent contre le proxénétisme comme l'EACP. Pour elles, la réouverture de ces maisons closes représente un danger majeur, celui de légaliser une pratique essentiellement dirigée aujourd'hui par des réseaux criminels connus pour exploiter des mineurs. La présidente de l'association, Lucille Mercier.
C'est une activité où il y a beaucoup d'illégal, beaucoup de réseaux, il y a beaucoup de criminalité qui tourne autour. Donc ça veut dire commencer à mettre le doigt sur quelque chose qui serait réorganisé, un système où on protégerait en quelque sorte tout un écosystème criminel autour. On n'est pas du tout convaincu par cette proposition.
Du côté du STRAS, le syndicat des travailleurs et des travailleuses du sexe, eh bien, il demande depuis des années à pouvoir exercer légalement le métier, mais la proposition du Rassemblement National ne passe pas pour autant pour Johar, l'une de ses membres.
Des maisons closes, on n'en veut pas, personne n'en veut des maisons closes. Et ce n'est pas le RN qui va nous sauver, ça c'est évident. Et leur proposition, elle est sans fondement, elle n'est pas consultée avec les personnes concernées. Nous, ce qu'on veut, c'est nous, travailleuses du sexe, pouvoir travailler librement, sans être criminalisées, et pouvoir louer un appartement, avoir une vie digne, tout simplement, comme n'importe quelle citoyenne.
Selon les autorités, il y aurait entre 30 000 et 40 000 personnes en situation de prostitution en France.
Hugo Dewoir, en Allemagne, c'est la réflexion inverse. La prostitution a été légalisée il y a 25 ans et la coalition actuellement au pouvoir veut rouvrir le débat de l'interdiction. Là, c'est une loi qui fête ses 120 ans aujourd'hui. La loi de 1905 sur la séparation des églises et de l'État, texte fondateur de la laïcité, qui garantit à chacun la liberté de croire ou de ne pas croire et assure la neutralité des services publics. Mais les enquêtes, les unes après les autres, montrent qu'une part croissante des jeunes Français remettent en cause cette notion au nom de la liberté individuelle, jusqu'à parfois estimer que l'interdiction des signes religieux à l'école est une punition. Alors le département de la Haute-Garonne a créé il y a 10 ans le parcours laïque et citoyen pour sensibiliser les élèves. 400 000 d'entre eux en ont déjà bénéficier. Reportage à Toulouse, collège Hubertine-Auclair, quartier Croix-Dorade de Clément Métainier.
Plusieurs fois dans l'année, les élèves abordent la laïcité de manière ludique. Ils jouent avec des intervenants extérieurs. Loïc Saquet est directeur de l'association Nord-Loisy.
La classe est répartie en différentes équipes et puis va participer à des épreuves autour de ces définitions, autour des mots.
Mais la laïcité reste une notion un peu vague pour Jade et Inas, elles sont en classe de 4e.
C'est tolérer la religion, enfin ne pas en prendre compte.
Ça veut dire qu'on tolère la religion des autres sans se moquer ni laisser de commentaires.
Plus précisément, la laïcité, c'est la liberté de pratiquer ou non une religion et le fait de traiter toutes les religions de la même manière, indique Raphaël Neuville, professeur d'histoire géo.
Les gens croient que c'est quelque chose qui va contre les religions, alors qu'au contraire, c'est quelque chose qui est là pour permettre le vivre ensemble.
Pour aborder le sujet avec ses élèves, Raphaël Neuville a deux maîtres mots, le dialogue et la patience.
On est capable d'échanger, ils vont poser des questions sur le quotidien. Au moment du Ramadan, par exemple, ils peuvent poser des questions et il n'y a aucun souci. Si on discute avec eux posément, ils sont capables d'entendre.
Et en plus des échanges, les outils aussi sont adaptés pour s'adresser à tout le monde. Par exemple, la charte de la laïcité a été revisitée pour toucher un public plus jeune.
Reportage ici Occitanie.
France Inter, le 13-14,
Jérôme Cadet.
La guerre avait surpris tout le monde en juillet dernier, opposant deux pays d'Asie du Sud-Est, la Thaïlande et le Cambodge, dont les images de cartes postales touristiques nous avaient fait oublier qu'ils sont aussi capables d'ouvrir les hostilités. Ces premiers affrontements, l'été dernier, avaient fait 48 morts et 300 000 déplacés de part et d'autre. Eh bien, ils ont repris depuis quelques jours. Ils se sont encore étendus ce matin. Dernier bilan, 10 morts, près de 150 000 blessés. En fait, la paix conclue il y a moins de deux mois n'a pas tenu, Dominique André.
Le conflit entre la Thaïlande et le Cambodge, c'est l'une des 8 guerres que Donald Trump se vantait d'avoir arrêtées en 8 mois. Pourquoi l'accord de paix signé fin octobre en présence du président américain a-t-il volé en éclats ? Il faut remonter le fil de l'histoire. En 1907, un traité entre la France, puissance coloniale du Cambodge, est signé avec le royaume de Siam, la Thaïlande de l'époque, pour tracer les frontières entre les deux pays. Une zone reste contestée par la Thaïlande. En 2008, la querelle s'intensifie quand le Cambodge veut faire inscrire un temple au patrimoine mondial de l'UNESCO dans la zone contestée. Depuis, des tensions sporadiques apparaissent avec le pic de juillet dernier. Pour ramener le calme, plusieurs puissances extérieures sont intervenues, la Malaisie, mais aussi la Chine, partenaire commercial de la Thaïlande, avec un projet de train à grande vitesse. L'ONU appelle à la désescalade, alors que les Jeux d'Asie du Sud-Est s'ouvrent aujourd'hui à Bangkok, dans un contexte de grande violence.
Explication signée Dominique André. Manifestement, le vent a tourné à Bruxelles. Il y a seulement un an et demi, le Parlement a adopté un texte pour obliger les grandes entreprises à prendre des engagements sur les droits de l'homme ou encore sur l'environnement. En fait, à s'assurer que les produits qu'elles fabriquent respectent ces règles tout au long du processus de production. Eh bien, ce texte a été largement détricoté ces derniers mois. Hier soir, pays membres et eurodéputés sont tombés d'accord pour reporter cette loi dite sur le devoir de vigilance, la reporter à 2029. Bonjour Fabien Cazot.
Bonjour Jérôme, bonjour à tous.
Fabien, vous êtes notre correspondant à Bruxelles. On peut dire que les entreprises ont fini par obtenir gain de cause ?
Effectivement, l'accord prévoit également de restreindre ce devoir de vigilance aux plus grandes entreprises, celles de plus de 5000 salariés, qui réalisent 1,5 milliard d'euros de chiffre d'affaires. Même logique pour les obligations déclaratives liées à l'impact social et environnemental de leurs activités. À droite, le rapporteur suédois Jörgen Warborn du Parti populaire européen salue un excellent compromis.
La proposition de simplification présentée par la Commission réduit les coûts d'environ 4,5 milliards d'euros chaque année. On vient donc d'accomplir quelque chose de très positif pour les entreprises en Europe.
Un argument économique qui ne saurait tout justifier, plaide au contraire l'eurodéputée écologiste Marie Toussaint.
Quand la droite dit que ça va permettre aux entreprises de gagner de l'argent, c'est vrai. Les entreprises les plus pollueuses, ou celles qui n'en ont rien à faire, les conditions de travail des gens qui fournissent les produits sur le marché européen, vont effectivement gagner beaucoup d'argent. Ça fait gagner plus d'argent que si on se pose la question de la santé des êtres humains, qui sont soit les salariés des entreprises, soit les consommateurs des produits finaux.
Des assouplissements qui seront entérinés par un dernier vote au Parlement et au Conseil européen qui ne devrait être qu'une formalité grâce au soutien de l'extrême droite européenne.
Fabien Cazot, correspondant d'Inter à Bruxelles. Toujours pas de bus. Aujourd'hui dans l'agglomération d'Ajaccio, c'est le 7e jour de grève. Les chauffeurs poursuivent leur mouvement. Ils protestent contre la dénonciation des accords d'entreprise de la part de leur direction. Quand une star du basket français vient en aide à une entreprise de sa région, les meubles Gautier, 65 ans de fabrication de lits, canapés ou encore étagères, vont sortir de redressement judiciaire. L'activité peut se poursuivre grâce à un plan de restructuration et à une solidarité de proximité. 15 investisseurs du territoire ont accepté de prêter de l'argent et parmi eux, il y a donc le joueur de basket Rudy Gobert. Bonjour Faustine Calmel.
Bonjour.
Racontez-nous cette histoire.
Alors petit retour en arrière. Les meubles Gautier, c'est donc 65 ans de production avec au départ des lits pour enfants et aujourd'hui tout type de rangement, étagères, canapés ou fauteuils. Mais en juillet 2024, l'entreprise familiale est placée en redressement judiciaire. Elle se sépare de 200 collaborateurs, lance une transformation industrielle et surtout son directeur général David Soulard appelle ses proches dont le basketteur formé à Cholet, seulement 40 km du siège social des meubles Gautier, Rudy Gobert.
Rudy, en fait, on le connaît depuis qu'il est tout petit. Enfin, je ne sais pas s'il a été tout petit un jour, mais je l'ai rencontré à l'âge de 17 ans au centre de formation de Cholet Basket, qu'on a sponsorisé par la suite. On est rentré en relation assez forte avec Rudy et il a cette envie d'accompagner le Made in France et il a aussi toute la partie environnementale, ce qui est au cœur de ce qu'on peut faire nous avec le recyclage. C'est pour ça qu'il a souhaité accompagner le projet.
D'autres familles et investisseurs du secteur se mobilisent. Une usine est vendue, un emprunt accordé par une banque et l'entreprise sauvée. Donc, bon point pour tout le territoire, défend David Soulard.
On se connaît tous sur le territoire, on a tous grandi ensemble. Donc c'est aussi notre force, c'est de s'entraider. Puis une certaine vision de l'industrie qui doit se défendre aussi. C'est un peu chasser en meute, quoi. C'est un peu être ensemble pour affronter les tempêtes. C'est un peu ça l'idée.
Un esprit d'équipe qui ne manquera pas donc de résonner aux oreilles du basketteur star qui est devenu Rudy Gobert.
Il faut fabriquer des grands lits pour Rudy Gobert. 2m16, merci Faustine Calmel. Moins réjouissant des insultes dans l'actualité de ce mardi, celle proférée par deux Miss contre d'autres candidates, Miss Provence et Miss Aquitaine. C'était ce week-end dans une vidéo diffusée après l'élection de Miss France. Ces propos leur valent aujourd'hui d'être destituées par les comités de ces deux régions. Elles vont donc perdre leur titre. Et voilà la tendance de l'hiver 2025-2026. Les défilés de tracteurs, des tracteurs illuminés bien sûr, pour égayer nos villes et nos villages avant Noël. Défilés organisés par des agriculteurs en Alsace, en Picardie, en Normandie, dans l'Isère et en Bretagne. Joanne Moison, vous avez suivi l'un de ces défilés il y a quelques jours à l'Alandec, non loin de Dinan. Une trentaine de tracteurs, Joanne.
Oui, ambiance Tour de France. De nombreux curieux, courageux, sous leur parapluie au bord de la route pour voir défiler les tracteurs enguirlandés.
Ah, c'est chouette, les gens sont super heureux. Tout le monde nous fait un grand salut.
Ça fait du bien au petit village, comme on dit.
C'est magnifique.
Certains sont venus de loin.
Nous, on vient de l'Orne. On fait 2 heures de route après l'école avec les enfants juste pour venir voir les tracteurs.
Bah, j'aime bien. Ils sont beaux, les tracteurs.
Il arrive. Le Père Noël arrive. Il arrive. Il arrive.
Oh, 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 oui, le Père Noël tout mouillé dans une remorque. Il y a toutes sortes de tracteurs ici, des gros, des rétros, des moyens, des petits, des tout petits.
Et vous, votre tracteur, là?
Ah, il est mignon, il est petit, hein. Bon, je suis petit parmi les gros, hein. Bien qu'étant petit, il n'ait pas réussi à passer à travers les gouttes. C'est vraiment dommage.
Ah ben oui, oui, c'est dommage qu'il pleut, quoi. Hein. Mais autrement, c'est une belle réussite quand même. Ça fait plaisir. C'est à refaire.
Reportage ici, Armorique. Autre ambiance musicale l'été prochain dans les arènes de Nîmes. On a appris que le groupe britannique The Cure se produirait pour 2 dates en juillet prochain, les 24 et 25 juillet dans les arènes de Nîmes, 28 ans après leur dernier passage. The Cure qui sera aussi l'une des têtes d'affiche de Rock en Seine. Ça, ce sera fin août, 13h27 sur Inter. À suivre dans la prochaine demi-heure, la météo de plus en plus douce, j'ai l'impression, de Stéphanie Fromentin. On croise des gens en short dans la rue ces jours-ci, début décembre. Puis à partir de 13h30, Thomas Vérinck avec nous, directeur général de RTE Réseau Transport d'Électricité. Nous parlons de notre stratégie électrique pour les 10 prochaines années. RTE a publié ce matin ses dernières prévisions sur la consommation, sur la production dans notre pays. J'attends vos questions, 01 45 24 7000. 13h45, à quoi ressemble la vie d'un patrouilleur sur l'autoroute? C'est notre feuilleton dans le Gard. Puis 13h50, c'est La France, c'est une chanson. Cyril Petit, Frédéric Pommier, bonjour à tous les deux.
Bonjour Jérôme.
Cyril, où nous emmenez-vous aujourd'hui?
Eh bien de Foligny dans la Manche à Montpellier dans l'Hérault, en passant par Salins en Seine-et-Marne, je vous emmène Jérôme faire vos emplettes au marché.
Mais vous êtes venu les mains vides, j'ai l'impression,
oui,
Cyril.
Oui, j'ai tout mangé déjà.
Ben, je ne peux pas vous faire confiance, je suis un peu déçu. Et avec vous Frédéric, une comédienne.
Louise Chevillotte, qu'on pourra voir demain au cinéma dans La Condition, le nouveau film de Jérôme Bonnel. Et avec elle, nous écouterons un titre de Feu Chatterton. Une chanson qui, pour Louise Chevillotte, convoque immédiatement le souvenir de sa mère.
Merci à tous les deux et à tout à l'heure.
Anne Berest, après le succès de la carte postale, à qui s'adresse votre nouveau roman Finistère ?
À tout le monde, bien sûr. Mais je dirais peut-être plus particulièrement aux pères et aux filles qui ont parfois du mal à communiquer, qui sont pudiques. Il s'adresse aussi à la jeune génération. Je continue de raconter une histoire de France, la guerre, mais aussi les années 68, l'engagement politique, le féminisme.
Oui, c'est aussi une grande déclaration d'amour à la Bretagne.
Vous avez raison. Il y a beaucoup d'amour dans ce livre.
Finistère, d'Anne Berest. Un grand roman d'amour et de transmission chez Albin Michel.
France Inter, partenaire de Love Me Tender. Un film de Anna Kaznav-Cambay avec Vicky Krieps, Antoine Reinhardt et Monia Chokri.
Moi, j'ai des histoires avec des filles.
Lorsque Clémence annonce à son ex-mari qu'elle fréquente des femmes, sa vie bascule et on lui retire la garde de son fils.
Ça fait 2 ans que je lutte pour voir mon enfant.
Clémence va devoir se battre pour rester mère, femme et libre.
On va s'en sortir, maman, tu sais.
On va s'en sortir, mon amour.
Love Me Tender, au cinéma le 10 décembre. Un film France Inter.
Le temps de votre après-midi.
La météo avec les œufs de Loué. Savourez les œufs fermiers de Loué, de poules élevées en liberté. Loué, libre par nature.
Bonjour Stéphanie Fromentin.
Bonjour Jérôme.
Et donc cette douceur toujours remarquable.
Et ce, bien que les températures minimales soient en baisse, notamment pour la moitié nord, pas de record de douceur envisagé cet après-midi, contrairement à hier. Mais le cœur de la journée est marqué par une douceur exceptionnelle. 16 degrés à Paris comme à Lyon, 20 degrés à Biarritz. Des valeurs dignes d'un mois d'avril, mais vous savez ce qu'on dit en avril, ne te découvre
oui.
pas d'un
fil. Alors si maintenant c'est vrai en décembre.
C'est pareil en décembre. Bon. Dans le Languedoc, l'air humide arrive de la mer et elle maintient une ambiance plus fraîche, 13 degrés seulement à Montpellier.
Et du soleil, hein, globalement, sur oui. de larges régions.
À part la Bretagne, qui reste un peu en marge avec un temps pluvieux, venté, des pluies régulières sur le sud de la Bretagne et des rafales à 70-90 km par heure entre le Finistère et la pointe du Cotentin, mais malgré cela, la douceur océanique persiste. Les nuages bas qui se sont incrustés ce matin le long de la Garonne, du Val-de-Saône, ainsi que plus localement autour du bassin genevois, se dissipent à la mi-journée, laissant place à un ciel tout au plus voilé sur ces régions. Des nuages qui seront en revanche être bien plus tenaces sur le pourtour méditerranéen, qui pourraient lâcher quelques précipitations près des Cévennes. Entre ces deux zones perturbées, des nuages élevés, momentanément épais, circulent entre le Val-de-Loire et le Grand Est sur un ciel plutôt lumineux.
Stéphanie Fromentin.
France Inter. Le 13-14. Jérôme Cadet.
Bonjour Thomas Vérinque.
Bonjour.
Merci d'être avec nous, directeur général de RTE, Réseau Transport d'Électricité. C'est vous qui gérez donc le réseau de transport d'électricité dans notre pays, comme son nom l'indique, mais c'est vous aussi qui réalisez régulièrement les prévisions sur la production, sur la consommation d'électricité pour les prochaines années dans notre pays. Et c'est sur vos prévisions que se base le gouvernement pour décider. Manifestement, il prend son temps pour décider, donc on a hâte d'entendre ce que vous avez à nous dire dans les prochaines minutes. 0145 24 7000 pour les questions des auditeurs et des auditrices. On en a déjà beaucoup. Vous pouvez aussi passer, je le rappelle, par l'application Radio France. Et là, c'est l'onglet Réagir. Thomas Vérinque, vous avez livré ce matin votre dernier bilan. Je retiens qu'il faut accélérer sur l'électrification et que la France a pris du retard.
Et oui, la consommation d'électricité sur temps long, elle est stable ou baissière. Elle a même beaucoup baissé ces dernières années. Et ça, c'est un constat implacable. C'est le constat qu'en France, on n'est pas en train de sortir des énergies fossiles. Et c'est embêtant parce qu'on a toujours ce débat français sur nucléaire et renouvelable. Mais la réalité physique de notre pays, on importe 60% de notre énergie qui est de l'énergie fossile. On l'importe de Russie pour le gaz, du Moyen-Orient, de plus en plus des États-Unis. L'année dernière, c'était 64 milliards d'euros nos imports de fossiles. Donc c'est quand même plus que le budget des armées ou que l'éducation nationale. Et puis j'ai même pas pris l'année la pire, parce que 2022, c'était quasiment 120 milliards d'euros d'imports. Alors, donc c'est le premier facteur déficitaire de notre balance commerciale.
Avant d'aller plus loin, vous avez déjà dit beaucoup de choses. On continue, nous Français, d'importer du gaz russe.
Oui.
Thomas Vérinque, oui. On continue d'en importer, même si on a annoncé qu'on allait diminuer ça. C'est toujours dans notre mix énergétique.
Oui, de manière générale, ouais. L'Europe était très dépendante du gaz russe. Ça décroît. Mais il y en a toujours.
Sur l'électricité, pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à augmenter la consommation? En fait, l'idée, ça serait qu'on consomme davantage d'électricité produite par le nucléaire et par les renouvelables et qu'on consomme moins de gaz et moins de charbon, ça serait ça l'idée?
Oui, c'est absolument ça. Augmenter la consommation d'électricité, ce n'est pas un but en soi. L'objectif, c'est que l'électricité, qui est déjà à 95% bas carbone, qu'on produit en France, qui est abondante, elle aille remplacer tous les usages qu'utilise aujourd'hui du fossile. Alors, il n'y aura pas que de l'électricité, hein, il y a d'autres façons de décarboner, mais c'est quand même la façon principale. Et aujourd'hui, c'est cette partie-là qui ne fonctionne pas bien. Si vous regardez la part de l'électricité dans notre consommation d'énergie, en fait, elle est stable depuis 10-15 ans.
Qu'est-ce qu'on a manqué? Qu'est-ce qu'on est en train de manquer?
Eh bien, en fait, ce qu'on n'arrive pas encore à faire, mais l'objectif, ça va être d'y parvenir dans les prochaines années, c'est d'enclencher ce mouvement de substitution. Alors, il y a beaucoup de secteurs.
C'est quoi les gros postes?
Les gros postes sont le transport, donc toute la mobilité légère, voitures électriques, camions. Les camions, il y a de plus en plus de solutions électriques. Ça va être la production de carburant pour les avions ou pour les bateaux. carburant qu'on appelle d'aviation durable, par exemple. Ça va être aussi dans le secteur du bâtiment, mais ça pèse pas beaucoup. Dans le secteur du bâtiment, avoir un peu plus de pompes à chaleur, ça pèse pas beaucoup d'électricité. Et puis, ça va être aussi dans l'industrie. Dans l'industrie, aujourd'hui, il y a beaucoup de projets qui se font, et ça, c'est une très très bonne nouvelle, parce qu'il y a 2-3 ans, il n'y avait pas de projet. Par contre, il n'y a pas encore beaucoup de concrétisation.
Alors, la part aujourd'hui des hydrocarbures, vous l'avez rappelé Thomas Vérin, que c'est 60%. L'idée, c'est de passer de 30 à 35%, c'est ça?
Oui, voilà.
À quelle échéance?
À l'horizon de 10 ans, il faudrait que la part du pétrole et du gaz soit passée d'environ 60 à 30-35%. La part de l'électricité, qui est un peu plus d'un quart de notre énergie, il faudrait l'avoir portée à de l'ordre de 40%. Vous voyez, ce sont des transformations qui sont importantes. Mais ce qui est important aussi d'avoir en tête, c'est que ce n'est quand même pas la première fois que la France est confrontée à ce type de défi. Avoir une production d'électricité qui croît, mais une consommation d'électricité qui croît moins vite que prévu. Mais en fait, c'était notre situation au milieu des années 80. On est exactement dans la même situation. On arrive à déployer de la production d'électricité, notamment avec les renouvelables en ce moment, avec le parc nucléaire dans les années 80-90, on n'arrive pas encore à avoir un rythme de consommation d'électricité qui suit. Dans les années 80, c'était parce qu'il y avait le fameux contre-choc pétrolier. Maintenant, c'est aussi parce qu'il y a eu les crises, la crise du Covid et la crise énergétique.
Si je vous comprends bien, la clé, elle est autour de la consommation de pétrole, et notamment dans nos déplacements, dans nos voitures. Il faudrait beaucoup plus rouler à l'électrique. Mais c'est inabordable aujourd'hui pour une large partie des Français. Il y a beaucoup de Français qui vous écoutent là, qui disent « mais moi, je ne peux pas passer à l'électrique aujourd'hui ».
Oui, c'est pour ça d'ailleurs qu'en fait, dans nos trajectoires de décarbonation, celles qu'on appelle décarbonation rapide, elles reposent surtout sur des transformations dans le secteur de l'industrie. Le secteur de l'industrie consomme encore beaucoup de pétrole, de gaz et même un peu de charbon. C'est dans ce secteur-là que les effets de levier sont à court terme les plus importants. Le fait de rouler avec des véhicules électriques, nous on considère que ça va continuer à augmenter, mais de manière progressive.
Mais vous voyez bien qu'il y a beaucoup d'industriels, je pense Arcelor notamment, qui a mis en pause des projets de décarbonation dans le Nord en disant que le contexte n'est plus favorable pour nous.
On est confronté, l'industrie est confrontée à une situation qui est difficile, on le sait tous, entre les droits de douane américains d'un côté, les excédents chinois de l'autre. Bien évidemment, on est dans une situation qui n'est pas facile pour l'industrie et ça a tendance à retarder des prises de décision. Mais cela dit, si on regarde notre équation géopolitique, en fait, il n'y a pas vraiment de doute. La valeur de notre stratégie de décarbonation rapide, elle est de plus en plus élevée. Que un certain nombre de pays qui nous vendent du pétrole et de la Russie n'aient pas intérêt à ce qu'on réussisse cette stratégie, on peut bien le comprendre. Mais nous, c'est notre intérêt et c'est pas que une question climatique.
Jean-Louis est avec nous, il nous appelle de La Rochelle. Bonjour Jean-Louis.
Oui, bonjour France Inter.
Nous vous écoutons.
Oui, alors j'ai une question à poser à votre intervenant. Est-ce qu'en France, on veut réellement de l'énergie renouvelable? Parce que en fait, le prix de rachat d'EDF du kilowattheure au particulier est passé là en quelques mois de 13 centimes à 4 centimes. Ça veut dire que plus personne n'installe de panneaux. La rentabilité, pour moi, par exemple, à 13 centimes était à peu près de 8 ans, vous imaginez à 4 centimes, plus personne n'installe de panneaux solaires. Ceci est couplé à une baisse de la prime à l'installation aussi, par kilowattheure. Donc voilà, je me pose des questions.
Merci Jean-Louis pour cette interrogation. Thomas Vérinck.
Là, bonjour, on est typiquement dans le sujet de l'arbitrage entre temps court et temps long. Aujourd'hui, dans un monde où la consommation d'électricité est plutôt stable, augmenter la production renouvelable, ça a de la valeur à moyen long terme, mais à très court terme, ça a quand même un peu moins de valeur. Et c'est pour ça qu'on est dans une phase de rationalisation des mécanismes de soutien. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'État se dit qu'il va potentiellement pouvoir régler les rythmes de développement. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'intérêt à avoir des renouvelables à moyen-long terme, on a documenté cette stratégie, on sait que pour être neutre en carbone, il va falloir du nucléaire et il va falloir également des renouvelables. Et donc, on a le débat éternel, préférence pour le présent, ou stratégie long terme.
Ça veut dire qu'aujourd'hui, on produit trop d'électricité renouvelable, mais que dans 10 ans ou dans 20 ans, on en a besoin, donc il faut continuer à augmenter la production ?
Alors le fait qu'on dise qu'on en produit trop, en fait, c'est un débat...
Bah, par rapport à notre consommation actuelle.
Oui, mais c'est un débat très franco-français, parce qu'en fait, quand la France produit plus d'électricité qu'elle en consomme, elle en exporte aux pays voisins. Et donc, c'est le seul facteur, d'ailleurs, énergétique sur lequel on a des excédents de production et donc où on gagne de l'argent. Donc ça, c'est plutôt favorable. Et rappelez-vous, il y a 2-3 ans, j'étais invité à la radio pour parler des risques de pénurie. Bah, c'est quand même plus agréable d'être invité aujourd'hui en disant qu'on a une électricité qui est abondante, qui est déjà très largement décarbonée, et avec des prix sur le marché qui sont en train de baisser.
Vous nous expliquez, Thomas Vérin, que la consommation, grosso modo, est stable, mais que notre production, elle, d'électricité, a tendance à progresser. Pourquoi est-ce que le prix qu'on paye ne s'effondre pas dans ces conditions, avec une offre d'électricité abondante et une demande qui stagne ?
Eh ben, en fait, ça dépend où, parce que si vous regardez le prix sur les marchés de l'électricité, ce qui, à force, finira bien par se voir sur les factures, lui, il a beaucoup, beaucoup baissé. Vous savez, on parle souvent du spread France-Allemagne. Souvent, ce n'est pas pour des questions d'électricité, mais sur les questions d'électricité, ça fait 10 ans que tout le monde regardait et constatait, les gens d'ailleurs ne comprenaient pas pourquoi l'Allemagne avait un prix d'électricité sur les marchés plus faible que le prix français. Aujourd'hui, ça s'est complètement inversé. L'Allemagne, pour l'année prochaine, paye 50% plus cher l'électricité sur les marchés.
D'accord, mais nous, on devrait la payer beaucoup moins cher. Il y a eu une très forte hausse au moment où il y a eu les problèmes de production d'énergie nucléaire. Depuis, il y a eu une petite baisse, puis une stabilité. Mais on n'en a pas la traduction de ce constat-là d'une forte production et d'une consommation stable dans nos factures.
Oui, mais c'est parce qu'en fait, on vient de cette période...
Je sais bien que c'est pas vous qui faites les tarifs,
non,
cher RTE, je le précise.
Pas les tarifs, mais on sort de cette période de la corrosion sous contrainte dont les surcoûts ont été étalés sur plusieurs années.
Donc qui avait fortement fait baisser la production d'électricité des centrales nucléaires.
Absolument. Rappelez-vous, 2022, on perd un quart de la production nucléaire et en même temps, c'est la pire année hydraulique depuis 1976. À ce moment-là, les prix augmentent. Les Français, avec les boucliers, en ont été protégés en 2022-2023, mais après, il y a des conséquences sur le temps long. Aujourd'hui, ces conséquences, elles sont en train de s'amenuiser.
Question et remarque de Paul qui prend la suite de la mienne. Il nous dit « Déchiffrer sa facture d'électricité relève de plus en plus d'une compétence à part entière. L'année est saucissonnée en plusieurs périodes, des tarifs, des référentiels différents. Il est compliqué de savoir si on a fait des économies d'une année sur l'autre, même en essayant d'être un peu rigoureux. Un travail de simplification pourrait-il être envisagé ?» Thomas Vérin, c'est un enjeu aussi, ça ?
Oui, c'est un enjeu. Alors, moi, RTE ne peut pas faire grand-chose par rapport à ce travail de simplification. Pour autant, on a aujourd'hui des Français qui sont beaucoup plus attentifs à leurs factures. Et ce n'est pas que les particuliers, hein, c'est aussi le cas des entreprises. En fait, il y a eu beaucoup d'économies d'énergie qui ont été faites lors de la crise. On a baissé la consommation d'électricité de l'ordre de 8% en quelques mois. C'est une réaction qui est en fait assez extraordinaire.
Et on a gardé ses réflexes ?
Et c'est pérenne.
Ouais.
C'est pérenne. C'est pour ça que la consommation d'électricité aujourd'hui n'a pas repris. Les réflexes d'économie d'énergie qui sont hérités de la crise, ils ont été continués. Et puis, il faut aussi dire ce qui est, c'est-à-dire que cette crise-là, elle a eu des impacts sur notre tissu productif qui n'était pas très favorable.
Roland est en ligne avec nous. Bonjour Roland.
Oui, bonjour.
D'où est-ce que vous nous appelez, bonjour, Roland ?
De Saint-Martin-la-Sauvetée dans la Loire.
Très bien, nous vous écoutons.
Alors, ma question était par rapport... Est-ce que le prix du kilowattheure, il va être variable en fonction de sa consommation ? C'est-à-dire, si on recharge une voiture électrique, est-ce qu'ils sont à même de savoir qu'on recharge une voiture électrique ou qu'on consomme du courant habituellement sur un chauffage ou...
Est-ce qu'on paye le même prix selon l'usage, en fait ?
Ouais, c'est tout à fait. Est-ce que avec le Linky, ils sont capables de savoir si on utilise notre courant sous différentes formes.
Merci Roland pour cette question, Thomas Vérinck.
J'ai envie de dire à Roland, en fait, ça dépend de votre préférence. Il y a des fournisseurs, il y a des gens qui vont préférer avoir le même prix de l'électricité tout le temps, et ça, ils trouveront une offre. Il y a des fournisseurs qui vont proposer ça. Il y a des gens qui vont aimer vouloir exploiter les opportunités qu'il y a, par exemple, à avoir beaucoup de production solaire, on va dire entre 10h et 16h. Et donc ces gens-là peuvent se dire, moi je vais recharger ma voiture électrique à ce moment-là, et là l'électricité, elle coûtera vraiment, vraiment pas cher. Donc en fait, ça dépend des personnes.
Question de Jacques de Toulouse, toujours sur les renouvelables. Quand la France réservera-t-elle ses éoliennes aux communes et aux collectivités et non à des investisseurs étrangers ? On a le ratio, Thomas Véringue, de ce que pèse dans la production de renouvelables des communes, des collectivités et puis de l'autre côté des industriels ?
Là, je ne suis pas en mesure de vous donner le ratio, mais en fait, je pense que ça dépend beaucoup du type d'énergie dont on parle. Vous avez des projets de communes ou de collectivités de communes pour déployer de l'éolien ou du solaire. Et puis, c'est quand même pas vrai de dire qu'il n'y a pas de capacité industrielle française, y compris dans les renouvelables. Par exemple, vous prenez l'éolien en mer. Beaucoup de matériel, des mâts, des pales sont fabriqués en France. Et même les installations pour le raccorder au réseau, en ce moment, sont en cours de fabrication à Saint-Nazaire, dans les chantiers navals.
Merci Thomas Véringue d'avoir été avec nous aujourd'hui, directeur général de RTE, Réseau Transport d'Électricité, 13h45 sur Inter. Une semaine dans leur vie, une semaine dans la vie d'Alain Munda. Alain est patrouilleur chez Vinci Autoroute. Il parcourt 300 km par jour dans son fourgon sur les routes du Gard, de l'Hérault et des Bouches-du-Rhône. Mais tout aurait pu s'arrêter il y a un peu plus d'un an sur la 9, dans le Gard justement. Le fourgon d'Alain est percuté de plein fouet. Il raconte à notre reporter Luc Chemla.
Je vois un véhicule qui arrive tout à fait normalement. Donc je vois les deux phares et une seconde après, je vois qu'un phare. Donc là, je comprends très vite. J'ai juste le temps de faire un pas en arrière et de m'accrocher à la barre qu'il y a dans le fourgon. Et le véhicule nous percute brutalement à 110 km/h. C'était le 26 avril 2024. C'est arrivé à 1h du matin. Donc avec mon collègue Thierry, on venait de poser une voie de droite, donc avec une zone de travaux où c'était balisé sur 5 km pour des travaux d'élagage. Donc le débalisage en fait se fait en marche arrière, donc sur la voie neutralisée. Donc on circule à peu près à 20 km/h. Mon collègue était au volant. Moi, j'étais positionné dans le véhicule, dans le sas derrière. On a des vitres qui sont à l'arrière. Donc j'ai les photos. Donc là, on voit bien que, voilà, que le fourgon en fait, est enfoncé à peu près de 1,50 m. Et au moment du choc, une seconde avant le choc, ma tête était positionnée ici, pile dans le choc. Si je n'avais pas vu arriver le véhicule, je serais peut-être plus là pour vous raconter l'histoire. Le choc était tellement violent que en fait, je me suis cru comme si j'étais dans une machine à laver. Ma tête a tapé le plafond du fourgon. J'ai eu 10 points de suture à la tête. Bien sûr, mon collègue qui était au volant attaché, vu la violence du choc, a eu très peur. On est sorti du véhicule et là, on est allé voir le véhicule qui nous avait percuté. Et on a très vite compris, parce qu'on a vu sur son fauteuil côté passager, il y avait une bouteille de pastis et il ne restait plus grand-chose de la bouteille. Et le conducteur, qui était âgé de 25 ans, avait 2,5 g d'alcool. Donc on est passé au tribunal, donc la personne a eu 18 mois de prison avec sursis, donc 6 mois ferme avec le bracelet électronique. J'ai pas été arrêté, c'est-à-dire que j'ai voulu reprendre assez rapidement pour voir si j'avais la sensation de peur. M'arrêter, pour moi, ça voulait dire une semaine, 15 jours à la maison, à ressasser l'accident, parce que dès que je fermais les yeux, je voyais l'accident, forcément. Donc moi, j'ai voulu reprendre assez rapidement et je me suis rendu compte très vite que je suis passionné et que j'avais besoin de continuer à le faire malgré l'expérience que j'ai vécue. Alors, c'est plus ma femme. Elle n'était pas trop d'accord parce qu'elle me disait « Ah, mais c'est dangereux ». Elle m'a dit « Si c'est vraiment ce que tu veux faire, continue, je suis avec toi ». Elle m'a dit « De toute manière, la boule au ventre que j'ai, je l'aurai tout le temps, donc ça ne changera rien ». Il faut que les clients qui prennent l'autoroute, ils prennent conscience que quand on prend l'autoroute, il faut qu'on soit à 100% de ses capacités. Notre point faible, c'est ça, c'est les clients qui font n'importe quoi sur l'autoroute. Parce que ça arrive des personnes qui passent, même pas ils jettent un œil, alors que bon, on est quand même visible sur l'autoroute. On est là pour protéger les clients, hein, on est les anges gardiens de l'autoroute, mais nous, il n'y a personne qui nous protège.
Et depuis le début de l'année, 42 fourgons de patrouilleurs ont été percutés uniquement sur le réseau Vinci Autoroute. C'était 43 sur l'ensemble de l'année dernière. Troisième épisode demain.
France Inter. Le 13-14.
C'est la France, le mardi 13h49. Cyril Petit du journal Ouest France nous raconte ces petites histoires qui en disent long. Aujourd'hui, Cyril, petite histoire de marché.
Et je vous emmène, Jérôme, à Foligny, dans la Manche. Depuis octobre, les 1200 habitants du village peuvent faire leurs courses au marché. Chaque dimanche, on y trouve un primeur qui vend aussi du fromage, une vendeuse de bijoux, un food truck et bientôt des créations en bois. Ce nouveau marché, on le doit à Sandra et Arnaud, les gérants du bar tabac multiservice de la commune qui s'appelle très joliment et en trois mots, Villageois. Mmh. Dans Ouest France, ils avaient lancé un appel à commerçants et en cherchent encore surtout des métiers de bouche. Ça commence à prendre, dit le couple qui se démène pour conforter une dynamique de bourg de campagne ce week-end. 15 exposants sont attendus pour un grand marché de Noël.
Si vous êtes intéressé, c'est à Foligny dans la Manche. Mais en fait, Cyril, partout en France, les communes se mobilisent pour les marchés.
À Blainville-sur-Mer, dans la Manche toujours, habitants, élus et commerçants veulent sauver celui du mercredi. Un marchand témoigne sur ICI. Les habitudes des consommateurs ont changé. Ils vont plus dans les grandes surfaces, font du drive et achètent plus à distance. Et le plus vieux marché de Montpellier, celui de Plan-Cabane, prévoit, lui, deux actions de relance. Les stands alimentaires seront accueillis gratuitement et des brocanteurs arriveront dès janvier, écrit Midi Libre.
Et le nombre de marchés en France a bondi ces dernières années.
Eh oui, une grande, grande augmentation. On en compte 11 000 à 11 500 en France, tous secteurs confondus, m'a indiqué Monique Rubin, la présidente de la Fédération nationale des marchés de France. C'est 3 000 de plus qu'avant le Covid. Celle qui est aussi vendeuse de chapeaux dans la Drôme explique cet engouement, notamment par le fait qu'il y a beaucoup d'initiatives de municipalités.
Ouais.
Et puis de l'autre côté, on a l'envie de consommer local, d'acheter en confiance et de cultiver le lien humain. Un petit chiffre, Jérôme, à Paris se tiennent 98 marchés chaque semaine. Et parmi les ouvertures récentes partout en France, un vient de naître à l'Opérette dans le Finistère. Celui de la Filature à Saint-André-les-Lilles dans le Nord cartonne. Idem à Salins en Seine-et-Marne où le rendez-vous mensuel lancé en octobre va devenir bimensuel.
Et ces marchés français se prennent à rêver.
D'entrer à l'UNESCO. Comme la, comme la baguette de pain ou le repas gastronomique, une pétition a été lancée pour soutenir l'inscription des marchés de plein air au patrimoine culturel immatériel national. C'est un premier pas indispensable avant une candidature à l'UNESCO. Hier soir, quelques 3500 personnes avaient signé le texte. On y croit, dit Monique Rubin, nos marchés participent à l'identité culturelle et sociale de nos territoires. Son slogan, un marché, c'est la ville qui respire.
Quand je vais au marché ces dernières semaines, Cyril, il y a beaucoup de gens avec des tracts, ils distribuent des tracts.
Oui. Alors, ça fait aussi des polémiques et des débats en France, puisque les candidats tentent d'y convaincre les électeurs, mais ça crée des débats dans plusieurs communes où des maires ont empêché des tractages. Alors, cette distribution, elle ne peut pas juridiquement être interdite, sauf en cas de troubles à l'ordre public, et ceci de manière temporaire. En résumé, le marché ne doit pas devenir la foire, Jérôme. Une petite phrase, ce n'est pas en allant sur les marchés qu'on gagne des voix, mais ne pas y aller, c'est en perdre. Résumé en 2014 sur France Info, Geoffrey Carvalino, alors candidat au municipal à Pantin, en Seine-Saint-Denis. Et je termine, Jérôme, par un slogan moins politique, « Je peux pas, j'ai marché ». C'est ce qu'on lit dans Ouest France sur le sac à provisions distribué vendredi lors de l'inauguration de celui du quartier des Villages à Saint-Brieuc. Là, un supermarché a fermé et un marché super a ouvert.
J'aimerais bien que vous me le rameniez, ce sac. J'aimerais bien
l'avoir. Ça, Jérôme.
Merci si vous pouvez faire ça pour le 13-14. Cyril Petit, chaque mardi dans C'est la France. De C'est la France à C'est une chanson. C'est la comédienne Louise Cheviotte qu'on retrouve aujourd'hui à votre micro, Frédéric Pommier.
Avec Swann Arlo et Galatea Bellucci, elle est à l'affiche de La Condition, le nouveau film de Jérôme Bonnel. Elle y est formidable. Le film est formidable aussi, il sort demain. Et c'est d'une chanson de Feu Chatterton que Louise Cheviotte a souhaité parler. La chanson Souvenir, extraite du deuxième album du groupe parisien.
C'est une chanson qui est d'une grande pureté, d'une grande beauté. Et dans ce qu'elle raconte, comme si l'autre était une terre qui s'éloigne, qu'on ne reverra jamais, je trouve que c'est un chant d'amour à ceux qu'on a aimés et qui ne sont plus là. Enfin, je la recommande en tout cas à tous les gens qui traversent ce chagrin sans bord, qui est la perte d'un être aimé, d'écouter cette chanson qui fait un bien fou, vraiment.
On ne sait pas de qui il parle, on ne sait pas s'il parle d'une amie, d'une amante qui aurait disparu. Vous, vous imaginez qui ?
Moi, j'ai ma disparue, c'est ma mère. Donc je pense toujours à elle quand j'écoute cette chanson. Et puis en plus, c'est un groupe qu'on écoutait ensemble. Donc c'est d'autant plus fort pour moi.
J'aime ta peau dorée, toi qui me donnais tout de ta main délivrée. J'aime la peau dorée, mais maintenant je pleure ton nom. Oui, maintenant je pleure ton nom. Un oiseau chante, je ne sais où. C'est, je crois, ton âme qui veille. Les mois ont passé, les saisons, mais moi je suis resté le même.
C'est en 2018 qu'est sortie cette chanson, Frédéric.
Soit 3 ans avant le décès de la mère de Louis Chevillotte.
Donc elle s'appelait Cécile Magnier, comédienne de théâtre. Elle a fait aussi un peu de cinéma plutôt avant ma naissance. Mais c'est pas du tout le jeu, l'interprétation, on va dire, qui m'a donné envie d'être comédienne. C'est vraiment son rapport à la poésie. C'était une folle de René Char, c'était une folle de Emily Dickinson, de Roberto Roirous. Enfin, tout autant de poètes qui ont peuplé ma vie depuis vraiment mon plus jeune âge et qui aujourd'hui pour moi sont vraiment des compagnons et des compagnonnes de route. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une journée que je passe sans une pensée, un adage, un mot. Et c'est aussi la manière dont je m'exprime avec mes proches. Pour consoler, je vais souvent glisser un texte.
Cette chanson, elle vous console ?
Oui. Il y a une phrase à la fin que je trouve tellement belle qui dit « Nous regagnerons la confiance » comme une terre ferme, à jamais. Et j'ai l'impression, quand on habite un monde transformé par l'absence, oui, il faut regagner la confiance, comme une terre ferme. Comment on rejoint le rivage, en fait ? Et cette chanson-là le permet, en parlant aussi de tout le monde invisible. Un oiseau chante, je ne sais où, c'est, je crois, ton âme qui veille. Moi, j'adore.
Au ciel et mêle ce brin de bruyère, seul souvenir pour récompense, comme Apollinaire, un souvenir pour récompense.
Qu'est-ce qui vous manque le plus avec l'absence de votre mère aujourd'hui ?
J'aurais dit les premières années, son amour, mais aujourd'hui. Je crois que je l'ai. Voilà. J'ai été tellement aimée que je suis aimée pour toujours. Et ça, je ressens la puissance et la force aujourd'hui. Et je sais que c'est une chance. Ça a été un grand privilège d'être aimée par elle.
Nous regagnerons la confiance. Nous regagnerons la confiance. Comme une terre ferme. Comme une terre ferme. À jamais. De l'autre côté. De l'autre côté.
Cette chanson-là de Feu Chatterton, c'est une chanson que vous avez partagée avec d'autres, comme vous partagez des poèmes.
Je l'ai partagée à des amis qui ont perdu des êtres chers. Voilà, j'ai une amie qui a perdu son mari, j'ai une amie qui a perdu son père. Bon, voilà, c'est une chanson que je murmure un peu comme un talisman et que j'aime donner comme un cadeau parce que je trouve que c'est un bijou.
Un trésor ?
Un vrai trésor. Je crois que c'est peut-être l'une de mes chansons préférées sur la Terre.
On s'est laissé à l'oreille de ce bois. On s'est laissé là.
Souvenir, Feu Chatterton, c'était donc Frédéric, le choix de Louise Chevillotte.
Louise Chevillotte que vous pourrez retrouver au cinéma demain dans La Condition de Jérôme Bonnel.
On pourra vous aussi, merci Frédéric, vous retrouver demain ici même dans ce 13-14 à suivre Stéphanie Duncan, le fil de l'histoire. Elle nous parle de Marie-Antoinette.